Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le soin à domicile. Le soin à domicile représente une modalité de prise en charge qui, au-delà de ses aspects pratiques, soulève de nombreuses questions sur les conditions, l'organisation et l'accompagnement des patients et de leurs proches. Si cette forme de prise en soin semble souvent répondre au désir des patients de rester chez eux, elle implique aussi des considérations logistiques et humaines. Entrer dans le domicile des personnes soignées et accompagnées engage les soignants dans une relation d'une nature directement familière. Le fait d'entrer chez les gens dans leur lieu de vie les expose dans toute leur fragilité et implique le soignant dans leur quotidien. La relation de soins est spontanément teintée par la dimension relationnelle et affective. Comment les soignants gèrent-ils ces liens parfois très personnels, notamment face à des situations émotionnellement intenses comme un décès ou un déclin long et difficile ? L'impact d'un tel engagement est paradoxal. Il peut à la fois être une source de fatigue professionnelle qui risque de nuire à la santé du soignant et le conduire à se désengager des relations avec les patients. Mais cet engagement peut aussi être vécu comme la source même du sens du soin, un retour à une clinique de proximité, à un lien particulier qui permet de trouver sa place de soignant. Une autre question importante à propos du soin à domicile porte sur le rôle des aidants. Les proches du patient doivent développer des compétences soignantes pour pouvoir l'aider à vivre avec sa pathologie. En suivant et en assurant une partie importante du soin quotidien, ils deviennent des acteurs essentiels dans le soin à domicile. Mais cette responsabilité constante peut peser lourdement sur leur bien-être psychologique. Alors, quelles stratégies doivent être mises en place pour prévenir la fatigue professionnelle des soignants qui interviennent à domicile ? Les soignants peuvent-ils concilier la proximité du soin à domicile et leur équilibre personnel ? Et comment les aidants familiaux sont-ils accompagnés par les professionnels pour pouvoir continuer à contribuer aux soins de leurs proches sans compromettre leur propre état de santé ? Dans cette troisième partie, je poursuis la discussion avec mes invités. Manuelo Turkiewicz.
Bonjour, donc je suis médecin coordinateur au DAC 32, mais également médecin au centre de prévention et d'épuisement des soignants en CHU de Toulouse. Et enfin, je fais actuellement un doctorat en droit à l'université de Montpellier.
Et Marie-Claude Daïdé.
Alors moi, je suis infirmière. J'ai longtemps été infirmière de soins à domicile et également, j'ai travaillé dans une équipe mobile de soins palliatifs à domicile. Je suis actuellement vice-présidente d'une communauté professionnelle territoriale de santé et également chargée de mission auprès de l'espace de réflexion éthique Occitanie.
Je vous propose de nous pencher sur le rôle des aidants dans le soin à domicile. Ces aidants, ils sont en même temps les proches du patient, ceux qui les aident et qui les accompagnent dans leur quotidien et qui peuvent rendre compte d'observations professionnelles. Donc, ils développent des formes d'expertise dans les gestes de soins utiles au quotidien. Et en même temps, ces aidants, ils ont un lien de proximité très profond et familier avec le proche malade qui crée une dimension émotionnelle particulière. Ce n'est pas du tout des aidants professionnels, justement. Donc, ils sont partagés entre aider au quotidien dans des gestes qui peuvent ressembler à des gestes soignants, mais en même temps, ils ont cette place de proche. Donc les aidants sont souvent des membres de la famille. Ça peut être l'épouse, le mari, l'enfant, la sœur, le frère. Ils ont donc une longue histoire commune avec le malade dont ils voient l'état se dégrader. Donc ils sont témoins de sa dégradation physique, sa dégradation éventuellement mentale, ce qui peut être une source d'angoisse ou d'épuisement émotionnel pour eux. Donc les aidants, ils jouent un rôle souvent important dans le soin à domicile. Ils deviennent des aidants, ils apprennent à réaliser des gestes, c'est ce que je disais. Et ça peut aussi bien être une surveillance, une toilette, une toilette pas au sens du nursing, mais enfin aider la personne en tout cas dans sa toilette, un pansement, que des gestes plus compliqués parfois, remettre une canule, j'ai déjà entendu ça. Est-ce que les soignants jouent un rôle dans cet apprentissage ? C'est-à-dire que vous, au quotidien, au domicile, vous voyez ces proches qui veulent aider. Est-ce que vous avez aussi à leur apprendre des gestes ou à leur montrer ce qu'ils ont à faire ou les aider à trouver leur place finalement auprès de leurs proches malades ?
Oui, en tant qu'infirmière, on est beaucoup attentif à ça, à éviter déjà leur épuisement. Parce que quand on regarde toutes les toutes les statistiques qui sont faites, toutes les études qui sont faites, on se rend compte que les aidants ont des problèmes de santé que n'ont pas d'autres personnes. Ça peut être de la dépression, des médicaments, des prises de médicaments plus importantes que chez d'autres personnes. Il y a un certain nombre de difficultés. Et oui, effectivement, on va les aider. On fait ce que moi j'appelle de la réassurance. C'est-à-dire que souvent, les gestes sont adaptés, mais ils ont besoin que quelqu'un leur confirme que ce qui est fait de façon adéquate. Mais a fortiori, on les aide dans cette réassurance. Mais aussi, on essaie de fixer des limites. Parce qu'il y a des aidants qui n'ont plus de limites non plus par rapport à ce qu'ils vont faire, par rapport à... qui vont essayer de remplacer les soignants. Parfois, c'est aussi parce que les soignants laissent des vides.
Ils laissent la place, en fait.
Voilà, aussi laissent la place. Donc, il y a un équilibre à trouver, là, qui n'est pas toujours simple. Mais en tous les cas, il faut arriver à protéger ses aidants. Après, il y a différents aidants. Il y a ceux qui ont fait le choix de cette aide, mais ce n'est pas toujours un choix éclairé pour tous. Et certains vont peut-être combler un peu les défaillances du système. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, quand il y a un manque de ressources en aide à domicile, par exemple, parfois, c'est les aidants qui vont combler ce vide.
Emmanuel Aude, vous parliez de dire non, savoir dire non. Est-ce que ça fait aussi partie de cette manière de soutenir les aidants et de leur... donner la possibilité de trouver leur place ?
Alors oui, tout à fait. Alors les aidants, vaste débat, on pourrait écrire une thèse dessus. Il y a déjà plusieurs catégories d'aidants, dont une dont je me méfie particulièrement, c'est l'aidant que vous voyez la première fois, hyper investi, qui va vous dire « Non, mais je vais tout faire de A à Z, j'arrête mon métier, j'ai lâché ma famille, c'est bon, je suis prêt. » Lui, vous pouvez, un coup sur deux, être sûr qu'à un moment, ça va craquer. Je préfère avoir un aidant qui me dit « Écoutez, là, je viens, je fais le nécessaire, mais il faut trouver une solution parce que ce n'est pas tenable sur le long terme. » Au moins là, vous êtes face à un aidant qui est clair sur ses limites. Parce que ne pas savoir ses limites, c'est un danger. C'est un danger parce qu'au final, vous avez essayé de tenir une situation à domicile et vous vous retrouvez avec deux possibles bombes à retardement. Le patient et l'aidant qui est épuisé. Oui. Lequel vous hospitalisez en premier. Parfois, vous voyez passer en consulte des aidants qui ont plus de motifs à être hospitalisés que le malade. Oui. Et vous retrouvez à discuter avec le malade alors que vous voyez l'aidant à côté souffrir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut aussi être très attentif au discours de l'aidant sur la volonté du patient. Je ne vais pas dire très souvent, mais il arrive parfois, quand vous avez des patients qui ont l'impression d'être un tel poids pour la famille, qu'ils se renferment sur eux-mêmes et l'aidant devient le porte-parole du patient. Et quand vous discutez avec un peu le patient, il vous dit « Non mais hospitalisez-moi là, je n'en peux plus, je ne peux pas les avoir tout le temps sur le dos, ils parlent sans arrêt à ma place. » Mais l'aidant ne le fait pas dans un but de méchanceté, de malveillance. Il le fait en pensant faire bien. Mais il étouffe le patient. Du coup, vous retrouvez avec des discussions où vous essayez de trancher sur le devenir et vous rendez compte a posteriori que l'élément tangible que vous avez, les seuls éléments tangibles, sont la parole de l'aidant et plus la parole du patient. Parce que l'aidant a pris une telle place. Mais vous le voyez, vous rentrez dans la chambre, il n'y a que les dents qui parlent. Les dents, c'est mieux les douleurs, etc. Et le patient n'a plus... Donc, il faut savoir lui dire non. Et il faut savoir parfois aussi lui dire, là, je m'entretiens avec le patient, je vous revois après.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et moi, à titre, pas personnel, mais il y a certains actes sur des aidants, par exemple des toilettes intimes, où ça met les dents dans des positions, surtout sur les... Alors, tout à l'heure, on a parlé de soins palliatifs, mais de troubles neurocognitifs ou d'infirmités dues à des traumatismes, des AVP, etc., où il y a très peu de différence d'âge entre le fils, la fille et le père. Et il y a certaines toilettes qui sont sensibles, où on voit clairement que les dents veulent faire, le fait, pas parce que, je reviens à ce que vous disiez... les paramédicaux ont laissé la place, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la place, parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre la place. Du coup, l'aidant de lui-même va faire des choses, des toilettes, je trouve, délicates. Donc oui, l'aidant, c'est plein de... C'est très variable. Il faut savoir parfois dire non à l'aidant. Et il ne faut pas le prendre mal, pas le remettre à sa place, mais lui expliquer qu'il est l'aidant et pas le patient.
Mais ça peut aussi être une forme de réconfort de qu'on dise non, parce que peut-être que les aidants, ils ont le sentiment de devoir ça à leurs proches.
Oui, oui, parfois c'est effectivement, ils le prennent comme un devoir, comme... Et puis, ils s'y sont engagés, donc ils ne veulent pas revenir en arrière, parfois. Mmh. Ou parfois, ils ne parviennent pas à revenir en arrière. Parfois, ils ont fait la promesse. Non, non, je t'assure, tu n'iras pas à l'hôpital, je te le promets.
Oui.
Donc, quand on est tenu par la promesse, c'est compliqué. Mmh. Et je reviens un tout petit peu sur ce que disait mon collègue tout à l'heure, en disant qu'il y avait des personnes qui arrêtaient de travailler. Mmh. Il se trouve que les aidants, majoritairement, ce sont des femmes. Mmh. Et la Fondation des femmes, je crois que c'est en juillet dernier, a publié une note en expliquant que cette proche aidance précarisait les femmes dans leur travail. Parce que beaucoup se mettent à mi-temps et ne peuvent pas avoir la carrière qu'elles auraient pu escompter avoir si il n'y avait pas ces arrêts.
Mmh.
Et donc, du coup, c'est un peu une bombe à retardement, cette question des aidants.
Et il y a quelque chose de culturel là-dedans, cette observation.
Oui, bien sûr.
Justement, parler de être aidant, c'est potentiellement difficile. Non seulement il y a des choses intimes qui peuvent être vues de son proche, mais il y a aussi la dégradation physique. Je pense que parfois, constater... l'évolution de l'état du corps de la personne, c'est quand même une épreuve. On voit que c'est une épreuve à l'hôpital et que les soignants prennent beaucoup soin de ne pas confronter les familles à des images difficiles, à une vision difficile. Mais au domicile, ça, c'est un peu inévitable peut-être. C'est-à-dire que dans cette proximité du quotidien, on va être peut-être plus facilement... Je ne sais pas si traumatisé c'est le bon mot, mais en tout cas, parce qu'on voit. Parce que voir des drains, voir du matériel, par exemple, des dispositifs médicaux intrusifs, ou voir dans certaines pathologies, le corps évolue vraiment en se dégradant beaucoup, beaucoup, c'est vraiment difficile, quoi.
Oui, effectivement. Alors, les choses les plus, difficiles pour les familles, on essaie parfois de les cacher, comme on peut, mais on ne peut pas tout cacher. Donc, effectivement, ils sont exposés.
Mais il est important, moi j'essaye de le faire systématiquement, quand vous arrivez sur ces situations-là, d'avoir un mot pour les dents. Et vous, comment ça va ?
Oui.
Il suffit de quelques secondes qu'il ait quand même l'impression, c'est plus qu'une impression, qu'on prenne sa situation aussi en considération.
Mmh.
Et là, généralement, très souvent, vous comprenez l'obstination, par exemple, de rester à la maison. Et les dents vous expliquent, je suis parti faire une carrière, je reviens sur ma fameuse ville de Paris.
Mmh.
Pendant 15 ans, je n'ai pas vu mon père, ma mère pendant 15 ans. Je culpabilise de ne pas m'être occupé d'eux.
Oui.
Et vous comprenez en fait le surinvestissement et d'avoir cette petite phrase qui vous a permis d'avoir ces infos, vous pouvez un peu tout reconsidérer, remettre les choses autour de la table et dire écoutez, oui, certes, vous avez eu une vie, vous avez travaillé, vous n'avez pas vu, mais est-ce que là vous pensez vraiment qu'on va dans la bonne direction ? Est-ce que cet surinvestissement de votre part, et voyez l'état de votre parent, dans comment il est à se tenter ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Et ces petits mots au début, là, sur les dents, ça permet parfois de...
Moi, je sais que pendant longtemps, je disais, prenez soin de vous.
Mmh.
Et un jour, il y a une dame qui m'a dit, mais je ne peux pas prendre soin de moi.
Et oui, c'est ça.
C'est pas possible. Et donc, maintenant, je ne dis plus ça, mais je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?
Mmh.
Ou depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre médecin généraliste ? Ah, mais il est venu il y a 2 jours, mais il vous a vu à vous.
Mais pas pour elle. Ouais,
pas pour vous.
Ouais, c'est ça. Et justement, les moyens pour soutenir les aidants, vous parliez de... cette parole qui va les soutenir ou le fait de leur dire ça non, ça c'est aux professionnels de le faire, c'est pas à vous de le faire, donc de poser des limites, ça va aussi aider à être soulagé de quelque chose. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres possibilités pour aider ces aidants ? J'ai entendu parler des maisons de répit, par exemple.
Oui, alors il y a un certain nombre de dispositifs. Les maisons de répit sont, je crois qu'il y en a 3 ou 4 en France, donc il y en a très peu. Il y en a qui sont en train d'émerger, mais enfin, il y a des problèmes financiers, semble-t-il. Après, il y a aussi le Café des aidants. Les cafés des aidants sont des lieux où, autour d'un café, les proches peuvent parler de ce qu'ils vivent. Il y a aussi un certain nombre d'EHPAD qui ont mis en place ce qu'on appelle des haltes répit, c'est-à-dire où la personne aidée peut passer une journée ou une demi-journée dans cette structure d'EHPAD pour permettre à l'aidant de souffler pendant une journée, par exemple.
D'accord, sans avoir à passer une nuit, quoi.
Voilà. Oui, parce que les nuits, c'est souvent plus compliqué quand il faut passer une nuit. Il y a aussi le congé de proche aidant qui existe, qui est d'une durée de 3 mois. Et puis, il y a l'allocation aussi de proche aidant qui permet à une personne qui s'occupe de son proche d'avoir un soutien financier de 64 euros et quelques par jour. Et c'est limité à 66 jours.
Ah oui. Bon, là, c'est une manière de reconnaître le travail qui est fait. Enfin,
l'investissement.
Le temps, ouais. C'est une manière de reconnaître le temps qui est dévolu à son proche. Mais finalement, est-ce que c'est un soutien moral? Bon, c'est un peu limité, cette question.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Il faut pouvoir expliquer à l'aidant. Moi, je l'ai vécu en tant que généraliste sur une maman qui suivait ses filles atteintes de gros troubles autistiques, expliquer que prendre du temps pour eux, pour les aidants, c'est aussi donner ensuite du temps de qualité pour les patients, pour la famille. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'elles ont vu le médecin généraliste? Et en fait, on constate que ces gens-là, sont sur le plan thérapeutique, ne sont pas du tout suivis. Parfois, vous avez des situations où l'aidant est impliqué depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous voyez qu'il n'y a pas d'antidépresseur, pas d'anxiolytique, une perte de poids. Donc, faire un check-up de temps en temps médical, c'est aussi gagner ensuite du temps de qualité pour le patient. Donc, l'aidant doit aussi faire attention à lui. Et vous parliez des dispositifs. Nous, médicalement, on appelle ça très souvent les hospitalisations pour maintien de vie à domicile difficile, où on se retrouve à hospitaliser le patient pour laisser un temps de répit pour l'aidant.
Oui.
Parce que sinon, l'aidant va craquer.
Oui.
Très souvent, ça se passe sur les congés d'été. On hospitalise des patients où, d'un point de vue médical, il n'y aurait pas nécessité d'une hospitalisation, mais on fait une hospitalisation de 3-4 jours, on fait un petit check-up, histoire que les dents souffrent.
Oui.
Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les patients. Un patient qui ne dort pas la nuit, par exemple, je reviens sur mes troubles neurocognitifs, les dents aussi, il va avoir des troubles du sommeil. C'est compliqué. Troubles du sommeil, asthénie, pas de suivi médical. Et vous retrouvez potentiellement, au bout de quelques années, avec une bombe à retardement. Vous vous retrouvez à devoir hospitaliser maintenant les dents.
Il y a aussi des plateformes de répit qui permettent d'avoir accès à tout un tas d'informations pour les aidants. Et puis, il y a aussi un autre dispositif qui nous vient du Québec. Au Québec, ça s'appelle le baluchonnage. En France, ça s'appelle le relayage. C'est permettre à un aidant, par exemple, j'ai souvenir d'une dame qui était aidante de son époux et sa petite fille devait se marier. Elle voulait absolument assister au mariage de sa petite fille. Donc, elle a pu partir 3 jours parce qu'une personne est venue la relayer pendant les 3 jours au domicile. C'est-à-dire, au lieu de déplacer le patient, comme le disait tout à l'heure mon collègue, c'est l'aidant qui va se déplacer. C'est un aidant professionnel qui va venir prendre la place de l'aidant familial pendant ce temps.
D'accord.
Alors, c'est pas beaucoup encore développé, et puis ça revient un petit peu cher, d'après ce que j'ai compris.
D'accord.
Mais en tous les cas, c'est des dispositifs qui existent en certains nombre d'endroits. En Haute-Garonne, je sais qu'il y en a un dispositif qui s'appelle Bulle d'air.
D'accord.
Voilà, donc c'est aussi des dispositifs qu'il faut avoir en tête, peut-être.
Parce que justement, sur les maisons de répit, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que le malade soit d'accord. Et quand il y a une situation de démence, par exemple, c'est rarement possible, donc ça, c'est une limite. Et la deuxième chose, c'est la question du deuil, c'est-à-dire on peut accompagner en tant qu'aidant, en tant que proche aidant, une personne pendant des années, la voir se dégrader, et puis quand elle décède, finalement, si toute sa vie a été consacrée à l'accompagnement de ce proche, qu'est-ce qui nous reste ? Bon, ça, c'est une grande question,
oui.
Évidemment.
Métaphysique, presque.
Après, il y a des possibilités d'être soutenu psychologiquement, j'allais dire, puisqu'il existe un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy, qui est financé par la CPAM, et qui peut permettre d'avoir un soutien de deuil dans ces cas-là. Après, il y a les DAC, où parfois certains HAD, qui ont des psychologues et qui peuvent aussi, lorsque le patient a été suivi par ces dispositifs-là, les psychologues peuvent aussi accompagner le deuil.
Après, je pense aussi que les professionnels de santé sont de plus en plus formés à reconnaître quand le deuil passe du deuil, j'allais dire physiologique normal, au deuil pathologique. Voilà. Ce deuil pathologique, on doit être attentif, il y a des signaux d'alerte, et qu'on rentre dans cette phase de deuil pathologique, dans ces cas-là, il y a une prise en charge spécifique. Mais de toute façon, le deuil fait partie processus normal.
Oui. Mais sur le fait d'avoir été dans cette activité d'accompagnement, en fait, ça comble quelque chose. Enfin, on peut se dire que ça peut combler quelque chose qui reste impensé et on se retrouve avec après coup. Sur l'accompagnement palliatif, justement, peut-être que ça, c'est une question, les proches, qui est complexe, hein, puisque vous devez en même temps être dans un rôle d'annonce, d'accompagnement et jusqu'au bout.
Dans les situations de soins palliatifs, la gestion de l'entourage, la gestion du patient, moi j'ai tendance à dire que c'est là où il faut faire le plus attention aux mots qu'on utilise. Parce que vous avez des personnes d'horizons très différentes, le patient qui a sa propre réalité, la famille qui a sa propre réalité. Très souvent en plus vous gérez des voisins qui se connaissent depuis 25 ans et qui viennent dans la maison. Là, il faut faire attention à tous les termes et on marche très très délicatement, on avance délicatement et l'importance des termes qu'on utilise est vraiment cruciale parce que sinon vous exposez ensuite à des incompréhensions et au moment du décès, ça vous retombe en pleine figure sans faire du hors-champ. Moi, ce que je trouve très compliqué à gérer avec la famille, dans les situations de soins palliatifs, c'est qu'on vous pose la question du « quand est-ce qu'il va décéder ?»
Oui.
Parce que la vie ne s'arrête pas pour le reste de la famille. Très souvent, eux aussi ont des enfants, etc.
Oui.
Et vous retrouvez à répondre au téléphone à une des filles, un des fils, qui est à 300 km de là, qui a pris sa journée pour un important achat immobilier, qui vous dit « bon, docteur, j'ai le temps... il ne va rien se passer aujourd'hui. Comment vous répondez à ça et à la famille ? Donc, à une époque, j'essayais de... Voilà, je disais, écoutez, non, pour moi, vous avez le temps. Là, il n'y a pas de... Et comme on ne maîtrise pas tout, hein, on est dans de l'humain. Parfois, le corps a ses propres raisons. Derrière, vous avez une famille qui vous en veut profondément de ne pas avoir été là au moment du décès.
Oui, qui vous tiennent responsable.
Oui. Parce que vous les avez écartés avec un fort sentiment de culpabilité. Donc, l'entourage, la famille, etc., sur les soins palliatifs, c'est pour moi le moment médical où il faut faire le plus attention aux termes qu'on utilise.
En même temps, c'est une question... Moi, quand je travaillais en équipe mobile de soins palliatifs, c'est une question qui nous était... quasi systématiquement posé. Pas forcément pour des choses matérielles ou des projets, mais parce que les gens avaient besoin de savoir, quoi. Et on leur répondait toujours assez invariablement qu'on aimerait bien pouvoir répondre à cette question-là, mais qu'on ne pouvait pas parce qu'on ne le savait pas.
Oui, donc, pas laisser l'impression qu'on cache quelque chose.
Voilà, voilà. Donc il y a cette incertitude... Il faut faire avec cette incertitude-là. Mais on entend bien que ce n'est pas toujours facile.
Et comment se passe une annonce de décès dans ces circonstances ? Parce que alors, les proches, ils sont là. Est-ce qu'on les contacte pour leur dire de revenir ? Est-ce que...
Alors moi, j'essaye d'avoir, dans les visites avec le DAC, systématiquement, quand j'arrive dans un domicile où l'entourage est présent, la famille est présente, en nombre, assez rapidement, j'explique, sous couvert de bonne prise en charge médicale, que j'ai besoin d'un interlocuteur, d'un et unique interlocuteur qui centralisera les informations et qui dispatchera cette information au reste de la famille. Moi, c'est vraiment quelque chose que je me suis fixé, c'est
un référent.
Alors, c'est facile quand vous avez la personne de confiance, etc., mais parfois, ça n'y est pas, parce que les directives anticipées, personnes de confiance, ne sont pas mises en place.
Oui.
Mais j'essaye systématiquement d'avoir un référent et je me tiens à ce que ce référent soit systématiquement informé. Comme ça, je ne me retrouve pas dans une situation où un des enfants a l'impression que je ne lui ai pas dit alors que je l'ai dit à sa sœur, de favoritisme où je ne... Oui. Et en plus, on ne connaît pas les relations entre les uns. Et quand ce référent, quand je suis présent à la visite et qu'il est là et que toute la famille est là, je le nomme devant toute la famille. Et généralement, il y a une espèce d'accord qui se fait assez facilement où les gens se regardent et disent « Oui, non, mais toi, tu as toujours géré, t'es le grand ou t'es la grande. » Ça se fait assez, assez facilement. Mais il faut le dire.
Oui.
Dès le départ, et pas statuer au bout de la quatrième visite ou du cinquième jour que ça sera... Monsieur Dupuis, qui sera le référent. Si c'est fait dès le départ, il me semble que c'est accepté.
Après, comme ça se passe au domicile, parfois, c'est les familles qui nous appellent en disant « je crois qu'il est mort ».
Ah, d'accord, ouais.
Et oui.
Et oui, oui, vous êtes pas... Bien sûr, les soignants ne sont pas là en permanence.
On n'est pas là en permanence, donc ouais. Souvent... Alors, des fois, ils se trompent, ouais. Mais des fois, ils ne se trompent pas.
D'accord. Donc, ça peut être eux qui vous annoncent, en fait, le décès.
Oui, ouais, ouais, d'accord. Aussi.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Manuelo Turkevitch et Marie-Claude Deydé. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.